Jean-Pierre Bocard, aujourd'hui c'est la fin d'une aventure, une aventure de 20 ans, une association Les Copains d'Abord.
Voilà, Les Copains d'Abord, on est Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, on était au Bahut ensemble, et 1963-64, et 30 ans après, il y en a un qui disparaît, et donc on se retrouve sans s'être revu pendant pratiquement 30 ans, au cimetière de notre copain Larouille. Alors on s'est dit, c'est quand même con de ne pas se revoir et tout ça. Et on s'est donné rendez-vous pour les 30 ans du Bahut, donc en 94. Et on s'est retrouvés une quarantaine. Alors du coup, on a vu que c'était bien de se retrouver, de se raconter combien on avait d'enfants, qu'est-ce qu'on faisait, etc. Et on s'est donné rendez-vous en l'an 2000 pour se revoir. Là, on était 80. Et on était au château de Ripaille, on a fait la grande bombance, on a fait tout ça, et vers minuit, monsieur le commissaire, certains ont dit, il faut créer une association. Donc nous avons créé Les Copains d'Abord, parce qu'on avait eu deux chanteurs avec nous qui nous ont fait, bien sûr, la chanson des Copains d'Abord de Brassens, et avec d'autres chanteurs, puisqu'on était très branchés sur la belle chanson.
Donc l'objectif, c'était...
Nous savons que la vie est mêlée depuis notre naissance jusqu'à la mort à de la chanson. Mais on était là pour se retrouver, des retrouvailles. Et on était là pour donc, on avait décidé une assemblée générale tous les 2 ans. Et on avait décidé de se retrouver pour des voyages. Et donc ça s'est bien passé pendant 20 ans. Mais vu l'âge, vu ceci, vu cela, on a pris la décision qu'il fallait mieux se dissoudre en chanson et en bonne humeur que de pleurer sur tous les copains qui meurent.
Et alors, pour clôturer ce moment d'émotion pour tous les membres de l'association, vous avez choisi de rendre hommage à Alain Leprest un 15 août.
Ben oui, parce que Alain Leprest, c'était un ami. Et le 15 août, quand il est parti, nous, avec l'association, on avait une journée où les ondes ne passaient pas. Et je n'ai appris sa mort qu'en descendant du plateau des Glières, donc vers 18h. Donc oui, c'était une grande émotion. Et donc pour moi, il était bon et bien de ne jamais oublier Alain et de le faire connaître à tous ceux qui n'ont pas eu la chance de l'écouter, de le rencontrer et surtout de découvrir tous ses textes. Il y en a des centaines. Donc on a essayé de faire un livre où on en récolte environ 350 ou 400. Il m'a écrit un mot, il m'a dit qu'il fallait que je sois le facteur pour distribuer ces mots à naître. Et donc, avec tous ces personnages qu'on appelle les copains d'abord, qui sont n'importe quoi, des profs, des médecins, des géomètres, des notaires, des ceci ou des cela, on leur fait découvrir de la vraie chanson, de la belle chanson. Et on a voulu finir sur cet hommage à Alain, puisque c'était le 15 août et que c'était notre 20e année d'existence et notre 10e assemblée générale. On a eu la visite du nouveau maire de Thonon et on a décidé peut-être de le convaincre à faire un festival Alain Leprest. On verra.
Alors Alain Leprest, c'est quelqu'un que vous avez rencontré plusieurs fois. Comment vous l'avez découvert ?
Alors Alain, il est venu 10 ans. Donc, alors moi, j'ai dirigé un cabaret, un petit cabaret à Grenoble, qui était la fin ou la reprise des cabarets qui se fermaient à Paris. Il n'y en avait presque plus à Paris. Donc on a ouvert le grenier de la Table Ronde. Donc c'était une salle de 50, 60 personnes. On pouvait y aller jusqu'à 80 une fois, quand le jour où Alain a chanté un après-midi. Mais donc normalement c'est un petit cabaret où des gens comme Fanon, comme De Broncard, comme Bruno Brel, comme Nicole Rieu, comme François De Gelt, comme Pierre Louqui, etc., etc., sont tous venus passer par là. Et ce sont des gens qui savent exprimer des vraies paroles et qu'on entend et qu'on peut nous amener à réfléchir ou à rêver. Et donc, ce cabaret existant, Alain, je l'ai rencontré à Valence. Et moi, c'est quelqu'un, je ne vous ai pas contacté. Je pensais que le prix ne pouvait pas être, je ne pouvais pas dans le petit cabaret. Et il me dit, il était avec Sally, il me dit, mais je serais honoré, heureux de venir. Et donc pendant 10 ans, il est venu chaque année. Et bon, là, je l'ai présenté à d'autres théâtres. Il a pu chanter dans des théâtres de 150-200 places sur Grenoble à un, deux endroits. Et puis, il y a eu plein d'histoires. Et donc du coup, il est devenu le témoin de mariage de mon fils. Le premier se mariait Et donc, il était le témoin de mariage. Voilà, on est resté en contact jusqu'à la fin.
Vous dites qu'il n'est pas aussi connu qu'il devrait l'être, vu la qualité de ses textes et de ses chansons. Mais il a quand même été reconnu dans le monde parallèle de la chanson. Il a quand même obtenu un prix.
Oui, il n'a pas obtenu un prix. Il a obtenu tous les prix. Prix Fex Gros, enfin, donc tous les prix, je n'ai pas en tête là maintenant. Mais il les a tous obtenus. Il a été reconnu et tout par. Mais il n'était ni porté par la télévision, ni porté par les radios, radios officielles, pas des radios qui osent encore faire connaître de la belle chanson, mais toutes les radios officielles qui ne marchent principalement qu'avec de l'argent, il n'était pas reconnu et connu. Bon, mais donc, on a dit, Nougaro a dit que c'était le plus grand écrivain de notre époque. Bon, il y a plein de gens comme ça, mais nous maintenant, eh ben, on mettra 20 ans peut-être, mais on le fera découvrir et reconnaître.
Est-ce que vous voulez nous parler de la naissance des cafés historiques ?
Alors, les cafés historiques, c'est autre chose. C'est une association qui est née en 89, en avril 89, et donc matérialisée le 24 juin 89, parce que le café que j'avais repris en juillet 72, je découvre que ce café existait depuis 1739. Donc, en 89, il avait 250 ans, et on a fait une grande manifestation sur plusieurs semaines, où on est parti du XVIIe siècle, où on jouait du clavecin, on était déguisé avec des habits du XVIIe siècle, on servait comme ça. Et puis après, c'était le XVIIIe avec violon, qui nous disait toutes les chansons de la République, de la fin de la Révolution ou du début. Et puis après, c'était le XIXe siècle avec les accordéons, avec les vieilles voitures. Et puis on a fini avec le XXe siècle, avec Jean Populus qui nous chantait des chansons de Couté, mais aussi salut à toi, brave Piu-Piu du 17e, etc., etc. Et donc, on a lancé ces cafés historiques et on a fait le recensement de tous les cafés en France qui existaient encore et qui étaient nés avant 1918. Parce que 1918, il y a une loi qui a interdit certains établissements pour la licence 4. Donc, tous ces cafés, tous ces endroits qui recevaient du public, qui permettaient de lire le journal, qui permettaient d'écouter ou de parler, qui avaient plus de 80 ans, on les a déclarés comme lieux historiques. Et on en a fait des guides. On a continué. Et après, dans certains de ces cafés historiques qui ont des difficultés à vivre, on a réussi à convaincre 5 patrons, peu importe, qui sont ouverts le midi, mais qui étaient fermés le soir, d'ouvrir une soirée par mois. Dans chaque département, il y en avait 5. Et on arrivait à faire venir un chanteur. Et il chantait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et souvent, le samedi, le dimanche, ils retournaient à Paris ou à Bruxelles ou à Marseille, où ils avaient des contrats. Mais ça leur faisait 5 jours. Et ils repartaient, à l'époque, avec 1500 francs ou actuellement avec 1500 euros. Bon, ça leur permettait de vivre. Ça permettait de les faire connaître et de faire aux gens écouter de la belle, du beau texte et de la belle musique. Donc, on a eu 6-7 départements, mais voilà, comme toute chose, ça s'est arrêté parce que ceux qui dirigeaient ont disparu et il n'y avait pas la relève. Parce que tout ça, il y avait sans argent. Ça veut dire que les gens payaient leur repas. Bon, dans les repas, il y avait 20 euros pour le chanteur. Mais il fallait donc qu'il y ait minimum 50 personnes pour pouvoir faire vivre. Bon, donc ça a duré, c'est bien, ça continue en Haute-Savoie. Bon, mais pourquoi pas que cette idée qui a été lancée donc, puisse être reprise, peut-être, par des jeunes qui auraient l'envie de faire connaître des vrais chanteurs.
Vous êtes un passionné donc des bonnes chansons françaises. Est-ce que vous-même vous chantiez ou comment vous est venu cet engouement ?
Alors, moi, je ne chante pas. J'ai essayé de chanter. J'ai répété avec un pianiste et tout, mais je ne peux pas me souvenir du texte. Donc, 4 premiers trucs, ça va, mais un 5e, c'est fini. Donc, je ne suis pas doué pour me rappeler. Alors, je préfère entendre des bons chanteurs, mais j'aime la chanson parce que j'ai été élevé. Enfin, je me rappelle que quand notre mère nous fait dormir avec une petite chanson. Bon, et on a tous un souvenir, on est amoureux, il y a une chanson qui nous marque, et puis la chanson est importante dans la vie, à tout âge. Et quand quelqu'un, encore un copain qui meurt hier, d'un cancer du pancréas, on va l'enterrer, et on va lui mettre trois, quatre chansons qu'il aimait bien et qui nous fait parler de lui, voilà. Hein. Donc je pense que la chanson vraie, la chanson où on entend les paroles, où on sait d'écouter ce qui est écrit, ce qui est dit, qui touche le cœur, est important dans notre vie. Et je pense qu'on reviendra, j'espère qu'on revient tout tranquillement à ce type d'expression.
Vous avez donc eu ce restaurant à Grenoble, La Table Ronde, une affaire que vous avez fait tourner et qui continue de tourner, mais sans vous.
Voilà, ben moi, donc, il y a 15 ans, j'ai pris ma retraite. Donc c'est un de mes fils qui a repris la relève. Le deuxième qui était hockeyeur professionnel, ben, à 32 ans, on lui a dit « t'es trop vieux, tu prends ta retraite ». Donc il s'est associé à son frère. Mes deux fils ont repris et ont développé cette table ronde qui date de 1739.
Il y a encore des chansons.
Il y a encore le grenier, ils prêtent le grenier, des chanteurs. Une fois par mois, ils font du jazz, une fois par mois, ils font des 10 heures, etc. Donc ça continue, bien sûr. Et moi, je suis passé avec quelqu'un que j'avais eu comme plongeur. Il me rappelle toujours que c'était sa première feuille de paye qui lui a permis. Il était sénégalais. Et là, maintenant, il a une troupe de musicien-chanteur et qui tourne un peu dans le monde entier. Et donc, il m'a invité à venir le découvrir au Sénégal, près du lac Salé, là où arrivait le Paris-Dakar. Et il m'a fait connaître un village qui s'appelle Djilor. Et ce Djilor, qui est le village où est né le président Senghor, ben on s'est investi pour aider les femmes à avoir des jardins et manger mieux, des enfants pour que dans leurs écoles ils puissent travailler correctement, et surtout on a des jeunes paysans sans terre, puisqu'ils ont dû vendre les terres à des gros bons, etc., à leur redonner un savoir-faire donc pour devenir éco-bio. Et au bout de 3 ans d'études, quand ils ont tout appris, planter les arbres, transformer le sable en terre, quel type de ceci, quel type de cela, on leur fait donner 1 hectare de terre. Ils sont donc chez eux, sur 1 hectare, ils peuvent vivre honnêtement. Et donc, ils montrent aux autres qu'on peut rester sur ces tables sableuses, sur ces tables où il y a la sécheresse ou ceci, parce que ils peuvent vivre et peuvent montrer donc aux autres que ça ne sert à rien de prendre des bateaux pour mourir en mer, ça ne sert à rien de quitter ses anciens, quitter son village. Et on peut vivre et on peut gagner presque autant qu'un instituteur ou comme un jeune brigadier. Donc, des sommes qui sont toutes petites, mais correspondante à des gens officiellement en place, fonctionnaires.
Donc ça, c'est quelque chose que vous avez mis en place avec votre association, Les Copains d'Abord ?
Alors, avec Les Copains d'Abord, parce qu'en 2011, on s'est trouvé avec quelqu'un qui ne marchait pas bien, donc on avait loué. Et puis, on s'est trouvé avec des femmes qui sont venues nous proposer de l'ail, des oignons. Hein. Et on leur a dit non, on n'en a pas besoin, mais mangez avec nous. Elles nous expliquaient. Puis, on a pris contact avec ça. Et on leur a payé un puits en 2012. Et puis de là, ça fait, on est constamment, toutes les années, et là, on a même aidé un jeune école hôtelière, hein, qui sortait de l'école hôtelière, à prendre la gérance d'un hôtel, là où on s'arrêtait depuis 6-7 ans. Et donc, cet hôtel Djilor, donc de découverte de la pêche et de la détente, eh ben, il s'appelle Pascal, il a 30 ans. Et voilà, donc on l'aide à pouvoir mener sa vie et à être maître de lui encore pour montrer qu'ils peuvent devenir autonomes pour eux et chez eux. Voilà, donc Les Copains d'Abord, on a fait ça. Mais non, il a fallu dissoudre cette association parce que en fait, on arrive à des âges où, comme je disais, on arrive à un âge où on ne peut plus lire Tintin. Parce qu'à 77 ans, on ne lit plus Tintin, donc il faut passer à autre chose.
Mais vous avez toujours des projets?
Oui, bien sûr, on trouvera. Et avec le presse, c'est quelque chose qui, moi, me tient à cœur. Les chanteurs, on découvre des... On croit connaître tout, et puis il y en a tellement de bons, de gens qui savent travailler, qui savent écrire. Hein, Jean-Sébastien Bressy, il vient de sortir son livre, et moi, je le connais depuis 22 ans. Mais donc, des gens comme ça doivent être connus. Mais malheureusement, notre société ne permet pas qu'il soit, parce qu'il ne brasse pas dans le monde du show business et tout ça. Bon. Mais nous, les amoureux du vrai, les amoureux de la convivialité, du savoir apprécier et de savoir vivre ce que l'on a, je pense que des auteurs comme lui ou comme plein d'autres peuvent être connus.